Astérix, s'il vous plaît. Mister,
Mister. M en live. Un concert événement à suivre mercredi à partir de 21h.
Est-ce que c'est ça?
Sur France Inter.
Est-ce que c'est ça?
Renseignements sur franceinter.com. La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet.
Mais quelle honte, monsieur Sarkozy, mes trésors publics, mais quelle honte, quelle indécence. 1 million d'euros annuels pour le PDG de EDF. Mais il faudra peut-être faire un petit effort pour garder nos grands dirigeants. 185 millions pour un mont nouvel A330. Oh, mais j'en ai tellement besoin. Et combien de repas en plus cette année au Resto du Cœur. Mais j'ai honte de mon pays et de ses dirigeants. C'était Anne en Charente-Maritime.
Salut toute l'équipe et tous les auditeurs de là-bas si j'y suis. C'est le repère de Mirepoix dans le 09 en Ariège. Le prochain repère se tiendra vendredi 27 à 18h au café Atmosphères, au 39 place du Maréchal Leclerc, sous les couverts à Mirepoix donc. Et le thème sera le fichier bas élève demain à 18h en présence notamment de différents personnes qui lutte contre ce fichier en Ariège. Eh bien voilà, bonne journée à tous.
Bonjour, je suis Fabien, maître de conférence à l'Université de Reims et j'appelle pour fournir un témoignage puisque jeudi dernier, trois ministres du gouvernement Sarkozy, à savoir Fillon, Pécresse et Châtel, sont venus dans ma ville, à savoir Reims, pour valoriser leur réforme des lycées. Et ils ont fait ça dans un lycée. Les enseignants se sont vus refuser le droit de manifester, ou plutôt se sont vus obligés à manifester à plus de 500 mètres, ce qu'ils ont refusé. En revanche, les lycéens, accompagnés de quelques étudiants, ont manifesté pacifiquement dans un premier temps, avant d'être chargés sans sommation par les forces de l'ordre. Une dizaine d'entre eux ont été interpellés, et quatre d'entre eux qui étaient majeurs ont été jugés en comparution immédiate. L'avocat général a requis 3 mois ferme et finalement les jeunes gens ont été condamnés à 3 mois avec sursis pour jet de pierre, sans pour autant qu'aucune preuve n'ait été avancée, si ce n'est la foi des policiers. Ces jeunes gens ont décidé de faire appel et un comité de soutien se réunira lundi à Reims à 19h. Donc ces jeunes gens ont besoin de beaucoup de soutien.
Bon, Daniel, sacré filou, tu vas pouvoir y retourner. Lâche tout ce que tu fais et saute dans l'avion avec ton équipe. Ben oui, ça y est, j'ai entendu la nouvelle ce matin sur France Inter. Tu dois aller sur place pour nous raconter ça de vive voix dans le poste. Dubaï, quasi faillite de Dubaï. Voilà, alors c'est l'occasion. Dubaï, le rêve des travailleurs réalisés, les logements sociaux dont ils rêvaient, qu'ils ont bâti de leurs mains pendant des années. Tout ça, enfin à eux, et surtout, n'oublions pas, grâce à la générosité des investissements du libéralisme mondial. Pistes de ski, shopping center, résidences, tout doit être occupé. Indiens, Pakistanais et autres, s'ils ne pouvaient retourner dans leur pays, eh bien, amenez tous vos familles à Dubaï, c'est le moment. Hervé de Belgique.
Bonjour, c'est Marion de Juvisy-sur-Orge. Alors, je suis extrêmement étonnée parce que j'ai appris que l'économie de Dubaï s'effondrait. Pourtant, normalement, ça devrait tenir bon. Gaspillage éhonté de ressources non renouvelables, des ouvriers sous-payés en 3-8 dans une chaleur de fournaise, une monarchie autoritaire qui mène un véritable régime de dictature, une grande rigueur morale avec une application stricte de la loi islamique. A priori, c'est un paradis hyper-libéral, ça aurait dû fonctionner. Mais j'ai une piste très sérieuse. Je pense que c'est un coup de l'ultra-gauche. Je pense qu'il faudrait retourner à Tarnac, fouiller soigneusement tous les domiciles, et on finira bien par trouver un guide touristique sur Dubaï qui constituera une preuve définitive. Et de toute manière, s'il n'y en a pas, il faut en mettre un d'urgence, puisque ça ne peut être que. Salut !
Merci pour ces messages, chers AMG. Ça tombe très bien, les messages sur, au sujet de Dubaï, parce que nous sommes à Trivandrome. Et Trivandrome, figurez-vous, c'est dans le Kerala. Et le Kerala, eh bien, c'est un lien direct avec Dubaï, lien direct à travers les travailleurs, les habitants du Kerala qui vont travailler dans les Émirats et notamment à Dubaï, qui vont travailler ou qui allaient travailler parce qu'il se pourrait bien qu'ils soient contraints, suite à cet effondrement financier, contraints à revenir en masse. Mais j'aimerais revenir là-dessus. Mais je voudrais d'abord parler d'autres mauvaises nouvelles, une très mauvaise nouvelle qui nous vient de Mayotte. On a appris que Kwasa, vous savez, ces bateaux qui transportent des réfugiés comoriens, c'est retourné au large de Mayotte avec plus de 40 personnes à bord. 11 ont été secourus et 30 ont disparu. Parmi les secourus, il y avait une femme enceinte. Alors évidemment, c'est des scènes épouvantables qui se répètent régulièrement, puisque chaque année, il y a 16 000 reconduites à la frontière, 16 000 reconduites annuelles depuis Mayotte vers les Comores. Alors je pense que M. Besson a beaucoup de travail à faire avec ces reconduites. Il faut rappeler que sur les 200 000 habitants de Mayotte, 40% sont des clandestins. Là, M. Besson ne fait pas très bien son travail. Je pense qu'il doit chasser ces clandestins avec la meilleure énergie du monde. Mais on a célébré avec quelle émotion le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et là, c'est un autre mur, celui-là. Et celui-là, c'est à nous, ce mur qu'il y a entre les Comores et Mayotte. On a été très émus, évidemment, à l'évocation de ces Allemands de l'Est qui allaient rejoindre leur famille à l'Ouest et qui, parfois, mouraient sous les balles des Vaupeaux. Et bien là, c'est un petit peu pareil, c'est la même famille entre les Comoréens et les Mahorais, c'est la même histoire, c'est la même famille, c'est la même ethnie qui est séparée par ce mur. Alors c'est de l'eau, là, c'est de l'eau, mais c'est tout aussi efficace. Et peut-être qu'un jour, il faut l'espérer, à la place d'un morceau du mur de Berlin devant la maison de la radio, on aura, qui sait, un verre d'eau de mer prélevé entre les Comores et Mayotte. Une autre mauvaise nouvelle, c'est celle concernant notre ami Nicolas Hulot. Vous vous souvenez de la petite série de reportages bien modestes quand vous avez présenté les carences de Monsieur Hulot. Eh bien, ça ne lui a pas porté chance à ce pauvre Monsieur Hulot, puisqu'on apprend que son film, et là c'est très drôle ce qui se passe, on est dans le Kerala, et il y a une panne d'électricité. C'est très fréquent en général en Inde, et là ça vient de se produire, si bien que je ne peux plus lire mes notes, mais je vais quand même continuer de parler dans le noir. Donc, échec pour Nicolas Hulot, on est très malheureux pour lui bien sûr, et on est très sincèrement malheureux pour ses sponsors, c'est-à-dire TF1, L'Oréal et tous les autres, Bouygues, etc., qui soutiennent Nicolas Hulot. Donc j'en reviens à ce qui se passe ici au Kerala, c'est l'inquiétude. On vient de rencontrer le ministre des Finances de l'État du Kerala et qui nous dit que 500 000 habitants du Kerala, des hommes, travaillent dans les Émirats et que la plupart vont devoir revenir au pays, probablement, ce qui est une catastrophe en perspective. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va retourner à Dubaï, où nous étions allés il y a 3 ans, au moment où Dubaï était vraiment l'endroit où il fallait être. On était dans le rêve à la fois de Nicolas Sarkozy et de Laurence Parisot, puisque là, il n'y a pas d'impôts, pas d'élections et pas de syndicats. On ne peut pas se rêver mieux. Et Dubaï, c'est encore, allez savoir, l'Eldorado néolibéral. C'est donc là que je vous propose de retourner. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base si j'y suis, au 01 56 40 37 37. La lumière est revenue.
Bonjour, je suis en train de lire mon petit journal local, Libération Champagne. J'habite à Salles-sur-Ours dans l'Aube. Et je vois que M. Proglio, qui a été nommé hier en conseil des ministres à la tête de l'EDF, alors qu'il était déjà patron de Veolia, a déclaré souhaiter conserver le niveau de revenu qu'il avait chez Veolia. Et il a déclaré textuellement, il me semble que ce ne serait pas choquant en soi pour une entreprise qui pèse 70 milliards d'euros en bourse. Donc, ce qui veut dire en clair que par rapport à l'ancien PDG qui vient d'être débarqué par M. Sarkozy, il demande une augmentation de 45% de son salaire, alors que les agents pour 2010... Les agents d'EDF, bien évidemment, ont été prévenus qu'ils auraient royalement une augmentation de 1,2%. Allez, à bientôt. Au revoir.
Je vous appelle, c'est pour un contrôle médical. La mutuelle, la G2R, la mondiale, dans son bulletin info santé de novembre 2009, fait un article suivant. Lutte accrue contre la fraude. Pour éviter la multiplication injustifiée des arrêts maladie, une étude récente de la CNAM sur l'année 2008 a montré que 13% des arrêts courts contrôlés étaient trop longs ou injustifiés. La répression va être plus sévère. Désormais, une personne dont les indemnités journalières auront été suspendues une fois pour arrêt injustifié, ne pourra plus obtenir automatiquement ses indemnités pour un autre arrêt. Elle devra obligatoirement obtenir un accord préalable de la caisse d'assurance maladie. Cette mesure est destinée à renforcer la lutte contre les fraudes. Par ailleurs, la contre-visite à la demande de l'employeur sera généralisée. La G2R La Mondiane sponsorise le Tour de France. Où sont les fraudes ?
Merci à Daniel pour le souffle d'air frais qu'il nous communique tous les jours. Alors voilà, en direct à une séance de vaccination à Toulouse hier, 5 heures d'attente sous la pluie avec des bébés, la panique, des lots de vaccins qui étaient périmés, les médecins absolument débordés. Voilà un peu ce qu'on ne nous raconte pas à la radio. Eh bien, bon courage à ceux qui se font vacciner. Au revoir.
Alors, à tous les AMG du 04 et de Manosque en particulier, je vous signale que le Café Repère se tiendra ce soir, 27 novembre, à la Brasserie des Lys, c'est 51 boulevard Émile Bourges. Et le thème de notre discussion ce soir sera la chute du mur de Berlin, un espoir déçu. Merci.
Salut Mermet, salut toute l'équipe. Donc j'appelle pour parler de la diffusion de Chomsky et compagnie dans le cadre du festival Quand les souris dansent, dimanche 29 novembre à 17h à la Cocotte Minute, un petit lieu culturel à Lyon, situé au 4 rue Belfort, 69004 Lyon. Voilà, donc pour réserver c'est mieux, 04 72 00 96 41. Salut et merci.
Issue d'une tradition séculaire, d'un peuple de marins et des eaux chaudes du golfe arabique, Burj Al Arab est un hommage admirable à une nation visionnaire à l'aube d'un nouveau millénaire. Rappelant la voile d'un boutre arabe, l'hôtel est le symbole du triomphe de l'humanité.
Là, évidemment, on a envie de rester là parce que c'est une fontaine très belle. C'est un ensemble de petits jets d'eau qui montent et qui descendent, des éclairages au pied de chaque jet d'eau, c'est très beau. Mais on est bien là parce qu'il y a un peu de fraîcheur. Là, il est 7h du soir et il fait très, 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 très chaud pour nous. Ce matin, quand on est arrivé à 6h du matin, il faisait 35 degrés. Il fera 45, 50, plus de 50 degrés. Il était prévu pour les travailleurs qui représentent, travailleurs étrangers, qui représentent 85% de la population de Dubaï, il est prévu qu'à partir de 50 degrés, on ne travaille plus en extérieur. Ici, le monde est divisé en deux. Il y a ceux qui sont d'un côté ou de l'autre de la vitre. Il y a un côté de la vitre avec l'air conditionné et de l'autre, non. Du bon côté, du côté frais, c'est 25% de la population qui est au frais. Le reste est à l'extérieur, c'est ceux qui sont sous le cagnard et qui font tout le boulot. Qui font tout le boulot, qui font tout ce paysage, qui construisent à toute pompe des choses invraisemblables, pharaoniques. Voilà, et là c'est l'heure un peu fraîche, la nuit tombe. La lune n'est pas dans le bon sens. Hein. Il faudra leur dire que la lune est de travers, elle est horizontale. Je ne sais pas s'ils ont remarqué, c'est pas normal du tout. Et c'est l'heure où les travailleurs, les immigrés qui viennent travailler ici se parlent un petit peu. Voilà. Dubaï, Dubaï, Dubaï. Goodbye. Ah, goodbye Dubaï. Ce sera la fin. À la fin, on dira ça. Goodbye Dubaï.
Dubaï ou Dubaï Inc.
Dubaï Incorporated.
Next generation destination.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil, Dubaï, Eldorado, Libéral.
Flight number 2, arriving from New York.
Le Dubaï Palm est là-bas.
Dubaï Palm, la construction c'est par là.
Ah, le Palm, le fameux Palm, d'accord.
Ils ont fait d'énormes rampes d'autoroute là pour pouvoir y aller.
C'est colossal, pharaonique. À peu près par là, un petit peu plus loin, au large, on est en train de construire un archipel d'îles artificielles. Et les îles dessinent le monde entier. Une île, c'est une partie du Portugal, de l'Espagne, de l'Afrique, etc. Et là-bas, c'est Burj Al Arab. Cette construction en forme de voile de bateau, qui fait 321 mètres de haut, et qui est le symbole de la ville pour l'instant, avant d'être détrôné par d'autres exploits. Ce qu'il faut, c'est revenir dans 5 ans, et puis dans 10 ans, et dans 15 ans, dans 20 ans. Comment résumer Dubaï ? Tomber dans le cliché et comparer l'émirat avec un conte de mille et une nuits ? Non ! À Dubaï, on ne rêve pas, on réalise son rêve, même le plus fou. Bienvenue à Dubaï. À Dubaï, la population a plus que doublé en 10 ans. Il y a 85% d'étrangers et désormais hérissé de tours et de grues, voilà Dubaï. Où que l'on se tourne dans ce pays de tous les excès, on se cogne à des projets ambitionnant d'être les plus grands, les plus beaux ou les plus chers du monde. D'ici à 2008 et 2011, cet état lilliputien de 1,4 million habitants verra apparaître la plus grande tour du monde, le plus grand aéroport mondial destiné à accueillir non plus 22 millions, mais 120 millions de passagers, le plus grand centre commercial de la planète, le Dubai Mall, une reconstitution des 7 merveilles du monde, plus grande que nature, des centres d'attractions en tout genre qui viendront s'ajouter à la station de ski. 400 mètres de pistes rafraîchies quotidiennement par 6000 tonnes de neige artificielle, de quoi ravir tous les sens, de l'homo modernus en quête de sensations fortes et de soleil. La recette magique fonctionne déjà. La plupart des hôtels affichent complet. Les capitaux russes et arabes affluent grâce à la défiscalisation. Le PIB a plus que triplé en 10 ans. À peine commercialisé, les énormes projets Dubai Waterfront, Discovery Gardens, The World et Palm, ces îles artificielles destinées à devenir des paradis flottants version occidentale, se sont arrachés à prix d'or. Il est vrai que les expatriés privés de tout droit d'installation officielle ont la possibilité d'acquérir un bien immobilier. À Dubaï, les femmes vivent sans entrave ou presque. Les seuls costumes traditionnels sont ceux des riches Dubaïotes qui évoluent visage découvert, abaya noir, joliment brodé, arborant fièrement sacs et escarpins griffés. Alors, la question se pose, faut-il aller à Dubaï ? Oui, si l'on aime le shopping et bien d'autres choses. Alors, bienvenue à Dubaï. Et il y a quand même pas mal d'autres choses. C'est là-bas si j'y suis, c'est sur France Inter.
Got the beats to make it bang. Yeah, we got God down, we got you. Every day thinking about how we get through. Everything I own is on IOU. But I'm here bringing y'all something new. You know, like the people, then they like you. Then they're gonna set it off with the big boo. Son in the battle, it's a son and daughter too. Why
you wanna talk about? Who done who? What you wanna talk about? Slang time, that's that in my egg time. I got the bombs to make you blow. I got the beats to make you bang. Slang time, that's that in my egg time. I got the bombs to make you blow. I got the beats to make you bang.
Est-ce que vous pouvez nous présenter ça, Abdelaziz?
Alors, ça, c'est un complexe de ski. Un complexe dans le cœur de Dubaïland. C'est un dôme, c'est le plus grand dôme au monde, avec 220 mètres carrés de diamètre et 80 mètres de haut. À l'intérieur du dôme, ça sera l'hiver, 12 mois sur 12. Alors, on aura tous les sports d'hiver, du ski, du snowboard, du bobsleigh, il y aura des pingouins.
Des vrais pingouins.
Il y aura un parc de pingouins. Il y aura un hôtel 5 étoiles à l'intérieur. Des appartements à vendre aussi.
Autour, là.
Autour. Vous pouvez acheter un studio, une chambre, deux, trois chambres. Et de votre appartement, vous pouvez voir les gens skier, la neige tomber. Et ça, au cœur de Dubaïland.
Et ça, ça rentre dans l'ensemble de Dubaïland.
Ça, c'est une partie de Dubaïland. Dubaïland, c'est 44 projets touristiques qui seront prêts en 2010.
Mais est-ce que c'est commencé ou est-ce que c'est un projet?
Non, c'est commencé. Et chaque projet, il est fait par une compagnie indépendante. Et le tout fera Dubaïland.
Et celui-là, là, est-ce que les appartements sont déjà vendus, sont en vente?
Oui, ils sont en vente déjà. On a déjà vendu 30%.
30% des appartements sont déjà vendus. Oui. OK, combien ça coûte un appartement?
Une chambre et salon, ça fera dans les 700 000 dirhams, ça veut dire dans les 120 000 euros. Et ça, ça va être unique au monde, hein.
Ouais.
Ça va être connu n'importe où dans le monde, c'est de skier au milieu de Dubaï. Pour un projet unique comme celui-là, c'est...
Quelle est la longueur maximum de la piste?
La piste est... C'est une piste rotative, c'est-à-dire que vous pouvez skier tant que vous voulez, ça va tourner.
Je comprends pas.
Là, vous êtes en bas, un moment, ouais. Après, hop, c'est
ça.
Vous êtes en haut.
Oui, je descends et ça remonte.
Et ça tourne.
Il n'y aura pas les remontées mécaniques?
Si, il y aura des remontées mécaniques, parce qu'il y aura des restaurants et des cafés en haut des montagnes.
Quel sera le menu dans les restaurants? Il y aura de la fondue, il y aura...
Bien sûr, le menu, ce sera des cuisines du monde entier.
Les pingouins.
Abdelaziz, vous croyez vraiment que ça va exister, ça, ou vous êtes en train de plaisanter?
On a déjà commencé les travaux.
C'est vrai?
Oui, et c'est un projet qui va coûter 1 milliard de dollars US. On rigole pas, c'est...
On rigole pas, non?
Ah oui. On rigole pas avec 1 milliard de dollars.
Welcome to the city of Arabia. A grand, glorious, and groundbreaking 20 million square foot development lying at the heart of Dubai land and serving as a majestic gateway to the new world.
La plus grande, la plus givrée, imaginez à partir pour Dubaï pour vous taper une fondue. C'est pas mal quand même, hein? Une fondue à Dubaï. Eh bien, ça va être possible. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles, qui vont être possibles et qui sont déjà possibles à Dubaï. Mais n'oubliez pas la phrase que vous venez d'entendre. On ne rigole pas avec 1 milliard de dollars, même si c'est un petit grain de sable. 1 milliard de dollars à Dubaï, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à Dubaï. Et beaucoup, 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 beaucoup d'argent qui passe et beaucoup, 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 beaucoup d'argent qui reste. Voilà, c'est un investissement pharaonique. On l'a dit et redit, et cette énorme façade, ce formidable miroir aux alouettes, c'est une organisation, on l'a entendu, Dubaï Inc. Effectivement, c'est une entreprise, c'est géré comme une entreprise avec la loi de l'entreprise, c'est-à-dire la loi du profit et le plus grand profit possible. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à Singapour, ça ressemble à Zurich, c'est très organisé, très propre, très riche, très clinquant, très glacé. Il y a un son permanent à Dubaï, c'est le son de la climatisation. Sauf, évidemment, si vous faites partie des 80% de la population. Non, pas vraiment, de ceux qui sont là, et qui travaillent en extérieur. Et eux, c'est pas le bruit de la climatisation qu'ils entendent, c'est le bruit des marteaux piqueurs ou le bruit des collègues, des copains qui tombent évanouis à cause de la chaleur. Alors c'est entre ça et ceci et cela que nous baladons aujourd'hui dans Dubaï.
Est-ce que c'est le projet le plus fou, celui-là ?
Selon moi, oui. Il y a d'autres projets, comme par exemple, vous voyez, c'est la plus grande tour au monde.
Ouais.
C'est Burj Dubaï, plus de 800 mètres.
Ouais.
Comme vous voyez, Palm, les îles du Palm, qui est là. Au début, quand les gens parlaient du Palm, personne n'y croyait. Les îles.
C'est le robot qui
passe.
C'est le robot qui passe.
Ouais. Les îles. Personne ne croyait au début. Et maintenant, elle est là. Burj Al Arab aussi, Burj Al Arab, vous connaissez. C'est le seul 7 étoiles au monde.
7 étoiles au monde.
C'est le seul 7 étoiles au monde. Personne n'y croyait, et bien il est là. Et à Burj Al Arab aussi, il y a des restaurants qui sont sous le niveau de la mer.
On va manger sous la mer.
Vous avez les poissons autour.
Des requins et des dauphins.
Des requins, je ne sais pas, mais
des dauphins. Poissons.
Les requins, ils sont ailleurs ici. Ils ne sont pas dans la mer.
Ils sont où? Ils sont dans le business.
Voilà, ils sont dans le business. Des gros requins blancs. Il y a des investisseurs qui mettent beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts dans ces...
Des efforts, ils mettent de l'argent, c'est pas des efforts.
Et
là,
tout ça, c'est la vision de Cheikh Mohammed.
Uh-huh.
C'est le prince de Dubaï.
Alors qui va construire tout ça? Il va falloir beaucoup d'ouvriers, beaucoup de...
Ici à Dubaï, les chantiers, on travaille 24 heures sur 24.
Mais j'ai entendu qu'il y avait des manifestations récemment, il paraît que les conditions de travail ne sont pas terribles.
Ça dépend des sociétés. Ici, c'est interdit de travailler de midi à 4 heures.
Pendant 2 mois d'été?
C'est interdit.
Depuis 2 ans.
Si les compagnies font travailler les employés pendant ce temps-là, ils auront des amendes. Mais entre nous, il y a des compagnies qui font travailler entre midi et 4 heures, ils payent l'amende. Ils préfèrent payer l'amende et faire travailler les gens pour avancer le projet.
C'est
le capitalisme. C'est Dubaï.
C'est le capitalisme ou c'est Dubaï?
C'est pas comme en France.
Non.
Il n'y a pas de syndicat,
Il n'y a pas de droit du travail.
Voilà, pas de droit à la grève.
Pas de taxes, pas d'impôts.
Pour l'instant.
Mais vous croyez que ça va venir, vous, mademoiselle?
Oui, parce qu'à force qu'on voit les Indiens, les Pakistanais exploités comme ils sont, mais on va bien un jour, on va mettre un stop. Hein.
Ça vous choque?
Oui et non, parce que c'est triste à dire, mais dans leur pays, c'est pire.
Voilà.
Tout ça, c'était hier, ce que vous entendez là, c'était il y a 4 ans à Dubaï. Aujourd'hui, la situation s'inverse complètement. Tout semble s'effondrer. On ne sait pas encore tout à fait l'ampleur des dégâts, étant donné que c'est la fête de l'Aïd et que tout est fermé à Dubaï. Alors évidemment, le monde entier, et notamment les bourses du monde entier, retiennent leur souffle. Mais on s'inquiète quand même très fort. Dubaï, c'était, je cite, le triomphe de l'humanité dans sa quête de grandeur. C'est ce qu'on pouvait lire dans certains dépliants touristiques et dans des descriptions de projets. Et le triomphe de l'humanité dans sa quête de grandeur, ça ressemble quand même au triomphe de la volonté. Le triomphe de la volonté, c'était le film fameux de Leni Riefenstahl, souvenez-vous, sur l'architecture du Troisième Reich. Et voilà, et bien il semblerait bien que ce rêve soit en train de s'effondrer. En tous les cas, voilà comment ce rêve formidable, tel Dorado ultralibéral, se présentait il y a 4 ans.
Combien de litres d'eau par jour pour arriver à ce que ce soit aussi verdoyant avec une chaleur pareille, et sachant qu'évidemment cette ville est entièrement construite sur du sable et donc le golfe aussi?
Dans les périodes d'été, comme ça, où il fait quand même très chaud, on utilise par jour à peu près 4,5 millions de litres par jour d'eau. Donc c'est de l'eau.
4 millions et demi de litres d'eau par jour. Qui arrive
par golfe, hein, qui arrive de 40 km d'ici, donc sous un système de
pipeline.
De pipeline, oui, parce qu'il ne pleut pas. Hein. Donc il pleut très peu. Si on a 2 jours de pluie par an, on a eu un mauvais hiver. Là, on est au Creek Golf Club. On est au Dubai Creek Golf Club. C'est un parcours de 18 trous qui est juste en plein centre-ville de Dubaï, qui a été ouvert il y a 14 ans et qui est spectaculaire parce qu'il y a une marina, il y a un parc kayak, il y a des restaurants extraordinaires et puis il y a surtout un 18 trous et un 9 trous allumé le soir jusqu'à 10 heures. Donc c'est la
première question qu'on a envie de vous poser, là je ne sais pas quelle température il fait 35 là aujourd'hui.
Ouais, 35, 34 degrés je crois cet après-midi.
Un petit 35 degrés. Effectivement, il va faire de plus en plus chaud et de plus en plus humide avec l'été. Là, l'été, vous vous cachez, là. Vous êtes tous terrés.
Ah non, je joue au golf même l'été. Non, on joue quand même au golf le matin, on joue le soir. On a un golf éclairé jusqu'à... Le dernier tee time, c'est à 10h du soir.
Le dernier ?
Le dernier tee time, le dernier... comment on dit en français, tee time
Le dernier jeu, quoi.
Voilà, le dernier jeu. Le dernier jeu, c'est à 10h du soir. Donc, vous pouvez jouer jusqu'à 2h du matin, si vous voulez. Donc, on joue quand même au golf, je veux dire.
Maman, regarde, là, tu peux admirer le swing de ce monsieur-là qui va démarrer.
Voilà, ça, donc, on a des bons joueurs aujourd'hui. Là, on a des bons joueurs. Là, on est au 9e trou. On a des très, très bons joueurs.
Hop. Après, vous voyez que c'est un bon joueur à sa position.
Là, il a pas trop bien joué, mais normalement, c'est bon. Donc là, ils sont en train de jouer pour la Coupe de l'île Maurice. On a sur Dubaï, on vend 8 golfs. Il y en a 2 à Abu Dhabi, il y en a 1 à Ras Al Khaimah. Donc les golfs ont été développés pour promouvoir le tourisme quand même. Au départ, quand l'Emirates Golf Club a été construit, il y a une vingtaine d'années, c'était un petit peu pour faire plaisir aux expatriés anglais. Il était très loin, il était à 10 km de Dubaï, on avait vraiment l'impression que c'était très loin. Maintenant, vous avez vu, avec l'agrandissement de Dubaï, il est vraiment au milieu de Dubaï, donc en plein centre-ville. Il a son port kayak, il a un très bel hôtel sur place, c'est vraiment il a une académie de golf avec une marina, donc c'est quand même un produit extraordinaire aujourd'hui.
Et alors, évidemment, le décor, c'est des tours en construction et des grues.
Il y en a plus sur le côté de la marina, de l'autre côté quand même, vers l'Emirates Golf Club, vers les hôtels de plage. Là, c'est vraiment une ville qui se monte, là.
Au fond, c'est le premier parc d'attractions du monde, quoi, Dubaï.
Ben oui, c'est amusant, quoi. Ce qu'ils font, c'est amusant, quoi.
L'idée, c'est
de grands enfants. Mais c'est bien pensé. C'est bien pensé, c'est fait avec un plan en tête. C'est fait pour développer le tourisme, pour créer des emplois, pour donner en même temps une facilité de vie aux gens, aux expatriés. Enfin, je veux dire, ils nous gâtent. On est gâtés ici, on est pris en charge, on est vraiment...
C'est peut-être pas le cas de tous les expatriés, si mieux vaut être quand même française et diriger un golf que d'être un Pakistanais qui travaille sur un chantier quand même.
Oh non, je pense que Pakistanais sur un chantier, ce sera le même à Paris, ce sera le même à Berlin, ce sera le même partout. Mm-hmm. Mais moi, vous savez, moi j'ai une petite bonne à la maison qui s'occupe de ma maison. Ça fait 10 ans qu'elle est avec moi, elle s'est construite quand même une maison... avec 4 chambres à Sri Lanka, vous voyez ce que je veux dire? Donc, par rapport là où ils vivent et par rapport à ce qu'ils gagnent, ils sont sûrement plus riches que vous et moi. Donc, tout est relatif quelque part. Hein. Ils sont heureux, vraiment, ils sont bien, ils sont contents. Il y aura toujours des exceptions. Il y aura toujours des gens qui sont moins bien. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez toutes les nationalités du monde qui vivent ici. Et les gens vivent en harmonie, vraiment.
Mostly people got the mental. Mostly people.
La plupart d'entre nous, on devient fou. Parce qu'on n'a pas, on ne sait pas, on ne connaît pas la solution.
Without wash, without eating, wash. Without where anything. Where are we going to go? How to, without sleep.
Comme on ne peut pas se laver, on ne peut pas dormir, on ne peut même pas aller travailler.
Because how we can wash, we can go?
Without sleep, sans se laver, sans dormir, comment est-ce qu'on peut aller travailler? Comment est-ce qu'on peut être performant?
We can't shower, we can't go to bathroom. How we can go?
On ne peut même pas aller aux toilettes.
Est-ce que vous pouvez nous faire visiter un petit peu?
Non, 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 non.
Alors voilà, là, on voit une chambre. On voit une chambre avec un gars qui est en train de dormir sur le carrelage, sans plumard. Alors, vous êtes combien actuellement dans cette maison?
40 people. Nous sommes 40.
40 dans 6 pièces.
Ah, 40 people. Oui.
Je voudrais savoir si c'est une situation courante.
Oui, c'est une situation courante ici.
Voilà, contraste entre le golf, le Dubai Creek Golf Club, l'un des 8 golfs de Dubaï, et puis la condition des travailleurs. Madame Michel, qu'on vient d'entendre, cette Française, fait partie des travailleurs immigrés, après tout. Alors, elle, c'est plutôt le dessus du panier, mais le panier est très grand, et dans ce panier, on trouve des ouvriers comme ceux-là, venus d'Inde, venus du Tamil Nadu, venus du Kerala, de ces états du sud de l'Inde, et pour être très précis, leurs revenus s'échelonnent pour ceux qui sont dans cette maison, qui nous accueillent, entre 250 et 380 euros par mois. Ce sont relativement pas les plus mal payés, on en rencontrera d'autres, et c'est le salaire approximatif. Je rappelle que 80 à 85% de la population des Émirats, mais notamment de Dubaï, est composée d'étrangers. Mais il ne faut pas confondre ces travailleurs étrangers avec des immigrés. Ils n'ont aucune chance de devenir un jour des citoyens émiratis.
qu'ils resteront toujours des étrangers. Depuis longtemps, du sous-continent indien, et notamment de l'Inde, on vient travailler, on s'expatrie pour venir travailler dans les Émirats, dans le Golfe d'ailleurs en général, mais dans les Émirats. Mais depuis ce boom extraordinaire, on vient de plus en plus nombreux travailler là. Alors, pourquoi sommes-nous là avec ces ouvriers indiens? Eh bien, c'est parce que on est dans le quartier Najma, qui est un quartier résidentiel de Dubaï, et ces ouvriers, le louent tout simplement une maison qui appartient à un Émirati, mais qui fait louer sa maison par un intermédiaire qui est un compatriote de ces ouvriers. Et il y a des problèmes, il augmente le loyer, ils ne peuvent plus payer, et voilà, ils sont en cessation de paiement, ils ne peuvent plus payer leur loyer, alors on leur a coupé l'eau, alors on leur a coupé l'électricité, et ils sont là à vivre dans le noir, très inquiets, complètement paniqués, et on leur rend visite et ils nous font visiter leur maison.
We know the situation, that is why, because you know, so many people are not giving the sponsor, means the owner. Not giving the accommodation and food. That is why they are going
Nous ne sommes pas d'accord pour vivre comme ça, mais nous n'y pouvons rien.
Pas le choix.
On n'a pas le choix parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ici qui sont des travailleurs clandestins. Donc, qui n'ont pas signé de contrat, etc., qui n'ont pas de salaire fixe.
Mais là, on a vu une chose, dis-moi, on a vu une chose épouvantable là, dans le journal aujourd'hui. On a vu l'histoire d'un travailleur qui s'est suicidé. Qu'on a retrouvé pendu à un arbre.
Ça, nous ne savons pas, mais la même histoire s'est produite ici même.
Ici même, dans la maison?
Il y avait quelqu'un qui travaillait comme ça avec un salaire dérisoire. Il n'avait pas de salaire, il ne pouvait pas envoyer de l'argent pour sa famille. Le soir, il nous parlait normalement. Nous, on ne soupçonnait absolument rien. Et quand nous dormions tous, vers minuit, il s'est pendu à l'arbre, un citronnier, ici dans la cour.
Ici dans la cour, derrière nous.
Et c'est le matin, à 6 heures du matin, quand j'étais allée aux toilettes. J'ai vu des chaussures, mais il n'y avait personne dedans. Donc je suis allée voir et je l'ai vu mort, pendu. Jusqu'à maintenant, on n'a même pas touché à ces chaussures. Elles s'y trouvent.
On peut aller voir. On traverse la cour avec des sommiers, des planches, des ficelles. Et on arrive dans le fond de la cour. Il y a pas mal d'ordures, des palmes, des vieux coussins.
Avec une échelle, il avait posé une échelle. Et il est monté et il s'est suicidé ici.
Et effectivement, au pied de l'échelle, ils ont laissé des chaussures, des tongs. Des tongs que le sable recouvre, des tongs bleus.
Depuis sept mois.
Quand tu l'as découvert, là, suspendu à cet arbre...
Nous, on ne sait pas. On a téléphoné à la police. La police est venue ici, voulait savoir s'il avait de la famille ici. Et comme il n'avait pas de famille, ils ont pris le corps. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé après.
Ah, vous ne savez pas ce que le corps est devenu. Mais vous saviez d'où il venait, de quelle région, de l'Inde?
Nous, on ne savait même pas où il travaillait. Il venait du Kerala. À l'époque, on avait une place à louer. Donc, il voulait tout simplement un espace pour dormir. Donc, nous ne savions pas. Il nous avait dit qu'il travaillait, mais on ne savait pas où.
Donc, vous ne savez pas si sa famille est au courant?
அதுக்கப்புறம் அது தெரியாது, நமக்கு தெரியாது. அவங்க ஃபேமிலி எந்த ஆளும் வந்து ரூமில் வந்து வந்த பழக்கம் தான் தெரியும். அவங்க போலீஸ் எடுத்துட்டு போனாங்க, அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியாது.
நான் ஒன்றும் ஒன்று சேப்பா அப்ரே கல போலீஸ் லா ரம்னே ஒன்று சேப்பா ஜித்து.
Vous savez comment okay. il s'appelait au moins?
Pour faire Das.
Ah, Das.
Das.
Dasan.
Il s'appelait Dasan.
Dasan, ok.
Et puis vous avez le yacht club? Vous n'avez pas vu notre yacht club?
Non.
Vous allez voir notre yacht club, il est beau notre yacht club. Il y en a beaucoup qui disent que c'est l'Opéra de Sydney. Bon, enfin, c'est parce que c'est blanc et que c'est élégant quand même comme clubhouse. Mais il est bien connu, il a été voté le plus beau clubhouse du monde il y a quelques années en Angleterre.
Ah bon?
Oui. Par Golf World. Et vous, c'est la première fois que vous êtes à Dubaï, alors votre impression à vous alors?
Époustouflé.
Parce que nous, quand on est là depuis 21 ans, on le voit plus, vous voyez ce que je veux dire? On vit d'un projet à un autre. Les projets sont de plus en plus fous d'ailleurs. Hein,
c'est délirant.
C'est délirant, c'est vraiment le mot, c'est vraiment délirant. C'est amusant, c'est délirant, c'est... ça fait parler, ça fait venir du monde. Et ça marche, ça marche. Nous, on le voit bien parce que
c'est
nous...
C'est incroyable cette marina là.
Vous voyez comme c'est beau ça, hein, hein? C'est chez nous ça aussi. C'est beau ça quand même, hein? C'est extraordinaire. C'est comme aller... Manie, c'est de Toulouse pendant une semaine parce qu'elle adore. Elle essaie de venir deux ou trois fois par an et elle est allée dans le désert le matin. Elle est allée faire du shopping l'après-midi. Elle est allée à la plage en milieu d'après-midi. Elle a fait du ski le soir. Donc, avant de prendre son avion, ça l'a beaucoup amusée. Hein.
Dans ce paradis ensoleillé, le cœur balance entre tout ce que Dubaï propose pour passer des vacances de rêve, des plages au sable fin et aux eaux turquoises rivalisent avec les imposantes dunes du désert, des parcs aquatiques, des sensations fortes, une détente délicieuse. Sous le soleil, présent presque 365 jours par an, les malls ultramodernes sont de plus en plus nombreux. On trouve là les grandes marques du monde de la mode à des prix inférieurs à leur pays d'origine. Villefranche, où les produits ne sont pas taxés, le tour des boutiques de luxe dans des cadres commerciaux magnifiques enchanteront les voyageurs les plus exigeants. Dubaï, planète. Savez-vous que des reportages comme celui que je lis au hasard, il y en a des centaines à travers le monde. Et aucun de ces journalistes, aucun de ceux qui ont écrit ces reportages, ces papiers, ne se sont préoccupés de ces travailleurs, pourtant si nombreux. Je le répète, ils sont 80% de la population sur les 4 millions d'habitants des Émirats Arabes Unis. On les voit quand même, on ne peut pas ne pas les voir, au moins lorsque les équipes changent, c'est-à-dire deux fois par jour et non pas trois fois par jour, comme on pourrait le croire et le souhaiter un peu pour eux. Non, ils n'ont pas vu ça. Et pourquoi donc? Eh bien, parce que tout est payé. Lorsque nous sommes arrivés à Dubaï avec le camarade Guy Van Thiel, on nous a dit « Ah, vous êtes avec l'office de tourisme ?» On a dit « Non, pas du tout. On est venu avec nos propres deniers, enfin celui que nous concède notre employeur. Ah bon, mais pourquoi donc? Ici, tous les journalistes viennent avec l'office de tourisme, ils sont très bien traités, ils sont très bien chouchoutés, et ensuite ils sont invités dans les hôtels, ils reçoivent des cadeaux de toutes sortes. Pourquoi vous n'avez pas fait pareil ?» Mais c'est vrai, après tout, on se demande bien pourquoi on n'a pas fait tout à fait pareil. C'est bien le travail ici.
Il fait un peu chaud.
C'est chaud, hein?
Sûrement 40 degrés.
585 dirhams pour le mois, pour 10 heures de travail. Et c'est mieux qu'au pays, c'est mieux qu'en Andhra Pradesh.
Là-bas, il ne pleut plus depuis un certain temps et nous sommes des paysans.
Et combien t'as payé pour venir ici?
110 000 roupies.
Ça fait plus de 2 200 euros.
J'ai dû emprunter de l'argent. Il me reste encore un peu à rembourser.
Depuis combien d'années tu rembourses?
Ça fait un an que je suis ici.
Donc tu vas rembourser pendant combien d'années?
Encore un an.
En 2 ans, tu auras remboursé.
Bon, on n'a pas le choix.
On a acheté une maison l'année dernière, il y a 2 ans à Saint-Tropez.
T'es allé acheter une maison sur un golf, le nouveau golf de Gassin à Saint-Tropez, qui est quand même extraordinaire, qui est, la position est extraordinaire. On l'a acheté, on est venu ici, c'était le moment où on pouvait acheter ici en tant qu'expatrié. Donc on a vendu la maison tout de suite, qu'on venait d'acheter, et on a acheté deux maisons ici. Et on n'achète pas le terrain, on achète la maison. Hein. Et dans mon cas où j'ai acheté une maison sur la mer, sur Piloti, on n'achète pas la mer non plus, on achète la maison. Voilà.
Vous avez acheté une maison sur Piloti ?
Oui, sur le deuxième Palme. Ben, sympa, hein ?
Et quand est-ce qu'elle sera livrée, votre maison ?
On parle dans 4 ans.
Vous avez le temps de la revendre 5 fois d'ici là, non ?
On a déjà fait...
C'est un placement ?
Ah oui, complètement, ouais. Déjà, c'est un bon placement. Même là, elle n'est pas construite, même là, si j'ai décidé de la vendre, c'est un très, 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 très bon placement.
Vous avez fait combien de plus-value déjà ?
Bon, on l'a acheté pour 2 millions de dirhams et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait la vendre pour 7.
C'est pour ça que les gars nous racontent qu'ils nous montrent des maquettes et ils nous disent on a déjà vendu la moitié ou le tiers, enfin. Ça veut dire que entre la maquette et le gars qui mettra vraiment les clés dans l'appartement...
Ah oui, pour revendre, bien sûr, oui.
C'est ça, il y aura 4 ou 5 fois la culbute.
Oui. Hein? Il y a des investisseurs, oui, bien sûr. Oui. On a eu une opportunité d'acheter sur plan au départ. Il fallait y croire, hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens d'expatriés qui n'y croyaient pas en disant « Attendez, arrêtez, là. » Mais il fallait y croire. Moi, je trouve que c'est extraordinaire, ce qu'ils font, moi. C'est extraordinaire. Il y a un charisme, il y a une aura sur ce pays qui est extraordinaire. Vous devez le sentir, d'ailleurs, vous devez le vivre. Il y a un tel optimisme ici, il y a un tel développement, il y a un tel respect pour le pays et puis pour les gens qui le gouvernent. Le pays vit en harmonie, vraiment. Hein. Il y a un énorme respect des dirigeants, des princes, de la famille royale ici. Énorme. Et qui nous le rend bien, hein. Qui nous le rend bien. Je veux dire, on vit très, très, très bien. Tant qu'on respecte la loi. Alors, vous avez toujours ceux qui ne sont pas contents, il y a toujours ceux qui sont mieux chez eux, il y a toujours ceux-là, mais ceux-là ne sont bien nulle part de toute façon. Par contre, si vous voyez d'autres Français, vous allez voir que les Français en général sont contents d'être là. Hein. Vraiment, vie en harmonie, je veux dire.
Ceux qui ne sont pas contents, ben justement, ceux qui sont bien nulle part, on va aller les voir à nouveau dans cette maison où ils sont sans eau et sans lumière, leur propriétaire ayant coupé tout ça parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer, tout simplement, et qui sont quand même assez inquiets et qui ont laissé au pied de cet arbre les deux tongs bleus de leur copain qui s'est suicidé, chose qui arrive assez souvent, oui, semble-t-il, des ouvriers comme ça complètement désespérés, voilà, on peut dire s'en sortent de cette façon. Je donnais des montants de salaire pour ces travailleurs. J'ai donné un chiffre de 380 euros. Parfois un peu davantage, un peu plus. Il faut faire beaucoup d'heures pour ça. Il faut bien rappeler, évidemment, qu'il n'y a aucune couverture sociale, aucune couverture médicale, aucune couverture retraite et même accident. La menace permanente que les entreprises font planer sur les travailleurs étrangers, c'est bien sûr l'expulsion. À tout moment, les ouvriers peuvent être expulsés. Alors, pourquoi est-ce qu'on reste et comment vient-on ici à Dubaï ? Vous seriez resté chez vous au Tamil Nadu ou au Kerala ? Quelle serait la différence ? Vous auriez la même vie.
Parce que là, il en reste 40 euros.
On
aurait été beaucoup plus heureux parce qu'au moins, on aurait eu nos familles avec nous. On est ici et on souffre.
Et pourquoi vous ne repartez pas alors ? Parce que vous avez des dettes à rembourser ?
Parce que pour partir, il faut avoir assez d'argent pour acheter le billet d'avion. Donc tous les mois, même si on arrive à économiser 200 dirhams, il faudra attendre 10 mois. Et on n'arrive pas à les économiser parce qu'on n'a que 200 dirhams avec lesquels vivre. Moi, ça fait 5 ans que je suis ici. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu aller une seule fois au Tamil Nadu.
Au pays. Mais quels sont ceux qui voudraient rentrer au pays et ne plus revenir ?
Au moins, nous quatre, nous, on aimerait bien rentrer pour de bon en Inde.
Et quels sont ceux qui voudraient rester ?
You know, the situation in India, no? We are coming from the normal family, not a high family. So,
en Inde, nous venons des familles ordinaires. pas des familles riches.
Why we came here?
Pourquoi on est venu ici?
To get the prosper future.
Pour avoir un avenir prospère.
That's why we came here.
C'est but pourquoi on est venu ici.
But the situation coming such like this one.
Mais la situation est devenue how? Comme ça.
Combien tu envoies par mois, toi, au pays?
Moi, je ne gagne pas suffisamment pour envoyer au pays. Pendant 6 mois, je n'ai pas pu parce que je rembourse le visa.
Combien tu avais payé pour le visa?
80 000 roupies indiennes à l'agent. C'est à peu près un peu moins de 2 000 euros.
Alors, pour trouver ces sommes, comment tu as fait? Tu t'es endetté, tu as vendu ta maison?
Moi, j'ai passé 5 ans pour avoir cet argent.
Tu as économisé pendant 5 ans? Tu trouves que c'était idiot maintenant? Tu trouves que tu t'es fait avoir ou pas?
Moi, j'ai l'impression que j'ai perdu ma vie, que ma vie, c'est une perte.
Tu as l'impression que ta vie est foutue?
Oui.
Alors évidemment, vous êtes très inquiet, vous vous demandez si vous pourrez participer au prochain shopping festival de Dubaï. Et oui, chaque année, au mois de février, 4 à 5 millions d'êtres humains viennent du monde entier à Dubaï pour faire crépiter la carte de crédit. Et oui, alors cette année, à quoi ça va ressembler? On se pose la question, on retient son souffle. En tout cas, voilà comment se présentait Dubaï il y a 4 ans dans la basse où j'y suis.
C'est quoi votre projet à vous?
Dubaï Heritage Vision, ça ouvre en septembre.
Catherine, mais alors votre projet à vous, c'est beaucoup moins spectaculaire.
C'est l'écotourisme, justement. Pour une fois, on change, on retourne aux sources de Dubaï.
Ah d'accord.
C'est un village bédouin, 100% traditionnel. Et le clou du spectacle, c'est une société française d'ailleurs qui le fait. C'est un show de 75 minutes. Avec des artistes du Maroc, de Tunisie, on veut une influence arabe 100% de tous les pays arabes dans le monde. Et donc ça va être un spectacle comme ça, un extravaganza comme on dit en anglais, avec la technologie, donc c'est une combinaison de technologie et tradition. Avec des écrans d'eau qui vont s'élever, les dunes à l'arrière, vous imaginez, vous êtes entouré de dunes sous le ciel étoilé. On a un amphithéâtre ici 100% arabe aussi, construit avec la pierre, comme dans Gladiator, le film.
Comme dans le film. Ah oui, oui, oui.
Voilà.
Oui,
et
oui,
on voit ce show entouré de dunes la nuit. Et ça sera tous les soirs.
Ça va être un petit peu comme le Puy du Fou, un peu
voilà,
en Vendée.
Bah c'est la même société.
Ah, c'est Philippe de Villiers.
Prisme International, ils ont une société à Lyon. Et ça va être fabuleux, les acrobates, cracheurs de feu, les chameaux. Ça va être aussi un conte des mille et une nuits. Tout en danse, en combat sur scène. Très grand. Et puis ici, il y a tout un village bédouin avec une possibilité de dormir dans des tentes VIP, mais bédouine aussi à 100%. Donc,
VIP et bédouin, quoi.
Mais c'est-à-dire qu'il faut quand même un peu d'air conditionné parce que bon, c'est chaud.
Oui.
Mais c'est magnifique. Et vous voyez le coucher de soleil avec votre famille ou votre partenaire, vous fumez une chicha. C'est naturel.
Padma, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qu'on achète? La neige ou le désert? Hein?
Ni l'un ni l'autre. On est obligé maintenant de créer des choses authentiques.
Toi, ça fait 9 ans que tu es ici.
Une fois, je suis allée en Inde.
En 9 ans?
Seulement une fois.
Est-ce que tu arrives à envoyer de l'argent chaque mois?
Non, je n'arrive pas. Tous les 3 mois, j'arrive à économiser un tout petit peu pour envoyer en Inde.
Mais est-ce que les gens du Tamil Nadu ou du Kerala continuent de venir ici?
Oui, ils continuent à venir. Parce qu'ils ne connaissent pas la vraie situation, ils ne connaissent pas la réalité.
They're only seeing, you know, TV.
Ils regardent la télévision.
Firework, you know. They're thinking, oh, this is Dubai. Wow, I want to come to Dubai.
Wow, c'est Dubai. Moi, je voudrais bien me rendre là-bas.
Ils pensent que vous allez faire du ski là, sous le ski dôme, que vous allez en haut de la tour, la plus haute tour là, du monde, et l'hôtel 7 étoiles.
Highest tower, le pont.
Correct. They are making, you know, the construction of the Burj. Everybody is thinking, oh, this is Dubai, it's the
tout
biggest.
Pense, wow, yeah. Dubai, c'est le plus grand.
They are thinking, what are they thinking? Just come to Dubai and work, earn more money, and they can save some money, and their life is very much more.
Ils pensent qu'ils vont venir ici, ils vont gagner beaucoup d'argent, et leur vie sera bien.
Correct.
Belle.
Est-ce que vous sortez un petit peu dans la ville? Est-ce que ça vous arrive de rentrer dans ces grands hôtels
Oh, how we can go? Madame, tell me.
Comment est-ce que nous pouvons y aller?
We are... Est-ce que vous la trouvez belle d'abord, cette ville?
Ah, this is a very beautiful place, dreamland. We know.
C'est un pays de rêve.
The most of I'm saying that 80% of people are suffering.
Mais 80% des gens souffrent.
Et ces 80% sont des étrangers.
Foreigners, you know?
Oui.
Correct. We agree. Correct.
Oui, nous sommes d'accord.
Et tout ça, ça se passe. C'est lors de l'appel à la prière, là, on est vendredi, et vendredi c'est comme dimanche. Et tout ça, ça se passe derrière nous avec la présence très très bouleversante d'une paire de tongs qui se recouvertes peu à peu par le sable au pied d'un arbre, un arbre pas très gros, hein. C'est un citronnier. Et à cette branche-là, cet homme s'est pendu.
C'était un reportage de Guy Vontil et Daniel Mermet tourné à Dubaï en mai 2006. Merci à Padma, Natarajan, Abdelaziz, Katrina et Mike. Un conseil de là-bas pour le week-end. À Vif, c'est le nom d'un week-end sur le thème « Quand les artistes entrent en résistance » avec entre autres Sarcophonie, une dissection dyslexique du discours réactionnaire par la compagnie Matador Clown et Raphaël Arditi. Cela se passe au local 18 rue de Lorillon dans le 11e arrondissement de Paris ce vendredi 27 à 20h30. Et demain samedi, toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui Aurélie Fortin et Yann Bouillot, à la réalisation Coy Nguyen et Raphaël Moutarde, assistante Agnès Lebot, chef du répondeur Catherine Pinto. Le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis est le 01 56 40 37 37. Bonne fin d'après-midi, vous écoutez France Inter, il est 15h. Il est 16h. Il est bien 16h et les informations Clotilde Dumetz.
Des dégâts mais pas de blessés. Ce matin dans le Bas-Rhin, une grue est tombée sur la gare d'Erstein. La grue de chantier était en cours de démontage. Sa chute a gravement endommagé le toit de la gare et le trafic SNCF en a été ralenti. Comme prévu, la navette Atlantis est revenue sur Terre. Elle avait quitté peu après 14h30 son orbite. Tout à l'heure, elle a atterri il y a un quart d'heure sur la piste du centre spatial Kennedy en Floride. C'est du moins ce que vient d'annoncer la NASA. Atlantis et ses 7 astronautes terminent une mission de 11 jours avec 3 sorties spatiales qui ont permis d'installer une antenne de rechange sur la Station Spatiale Internationale et 2 antennes sur le laboratoire européen Columbus, dont l'une va servir à l'identification automatique du trafic maritime. Michel Barnier, nouveau commissaire européen au marché intérieur et aux services financiers, une nomination dans la nouvelle commission présidée par José Manuel Barroso, une nomination qui s'est faite malgré l'opposition de la Grande-Bretagne. Nouvel épisode dans l'affaire des sondages de l'Élysée. Le Parti Socialiste a confirmé qu'il déposerait avant lundi une nouvelle demande de commission d'enquête parlementaire, ne portant plus seulement sur l'Élysée, mais ajoutant les sondages commandés par le gouvernement. Au nom de la séparation des pouvoirs, le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, a déclaré irrecevable hier la précédente requête des socialistes qui ne visait que les études d'opinion payées par l'Élysée. L'optimisme de Peugeot. PSA prévoit une croissance de ses ventes en France pour 2009. Le constructeur automobile a estimé que l'année sera moins mauvaise que prévu et anticipe pour la fin de l'année une croissance de ses ventes en France. Depuis ce matin à Bordeaux, le trafic des transports en commun est très perturbé pour cause de grève. Les salariés contestent le projet de réorganisation des réseaux de transports en commun urbain. 22 kilos de cocaïne saisis par les douanes dans le sac d'un passager à Orly. La scène s'est passée dimanche dernier, rapporte aujourd'hui les douaniers de l'aéroport. C'est un chien qui a repéré le sac d'un couple de Français qui revenait de Martinique. La marchandise est évaluée à plus de 886 000 euros. Il s'agit de la plus grosse saisie de cocaïne réalisée à Orly depuis juin 2006, où 24 kilos avaient été saisis sur un passager en provenance de la République dominicaine. En Allemagne, une vaste chasse à l'homme depuis ce matin dans la région d'Aix-la-Chapelle. Hier soir, 2 détenus se sont évadés de la prison de la ville. Ils sont armés, réputés dangereux et aux dernières nouvelles, la police aurait perdu leurs traces. Appel à la générosité, comme tous les ans, c'est depuis ce matin jusqu'à demain la collecte annuelle de la Banque Alimentaire. La Banque Alimentaire redistribue ensuite toute l'année les vivres collectés durant ces journées aux plus démunis ou à des associations qui les aident. Quand Aimé tacle Raymond, Aimé Jacquet, le sélectionneur de l'équipe de France championne du monde en 98, c'est du football, il s'exprime dans France Football cette semaine et il critique la communication de son successeur. Il Ils critiquent aussi le maintien de Raymond Domenech à la tête des Bleus après plus de 4 ans. David Douillet, chargé d'une mission sur l'organisation des grands événements sportifs en France, l'ancien champion de judo, aujourd'hui député UMP des Yvelines, a reçu une lettre de mission de Nicolas Sarkozy aujourd'hui.
Stop au virus de la grippe.
La grippe A, H1N1, n'est pas une maladie anodine. Elle peut avoir des conséquences graves. Nous pouvons tous faire quelque chose pour en limiter la propagation. Contre la grippe, la meilleure protection pour soi, pour son entourage, pour les plus fragiles, c'est la vaccination. La campagne de vaccination se déroulera progressivement. Vous pourrez vous faire vacciner dès que vous aurez reçu par courrier un bon de vaccination. Pour toute information, connectez-vous sur pandémie-grippale.gouv.fr. Les gestes de chacun font la santé de tous. C'était un message du ministère de la Santé et de l'INPES.
And now.
System Disc.
Icône.
Icône.
Ah oui, parce que je pense pas qu'elle
est... Je déconnais.
Avec la limite, je préfère un groupe qui arrive, qui fait un 2, 3, 4, qui balance la sauce.
On est bien d'accord. Voilà.
Sur un accord bien crétin.
Et puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est cheesy.
System Disc, ce soir, de 22h à 23h.
France Inter.
La différence.
France Inter, il est 16h04, l'heure de retrouver la musique. Frédéric L'Odéon, le Carrefour de L'Odéon, bonjour.
Bonjour Clotilde. Carrefour de L'Odéon. Bonjour à tous. Dans une petite demi-heure, je recevrai le très grand chef d'orchestre Marco Guidarini, qui viendra nous parler des rencontres musicales de Puteaux, qui commencent le 5 décembre. Et avant, puisque, comme tout le monde, je lis les journaux et que je vois fleurir un certain livre qui s'appelle Le symbole perdu, de Dan Brown, après Les anges et démons, en 2000, après le Da Vinci Code, qui a fait un tabac à partir de 2003, mais voici ce livre qui parle de la franc-maçonnerie. Alors, d'après certains spécialistes, il s'y connaît, il ne serait pas franc-maçon lui-même, mais enfin, il connaît pas mal l'organisation, les rituels, et il a une certaine maîtrise du sujet, et puis il est certain que ce livre va se vendre de manière absolument incroyable. D'ailleurs, il a été imprimé à 8 millions d'exemplaires en anglais, et puis il arrive chez nous à partir d'aujourd'hui. 50 pays sont concernés par les traductions du livre de Dan Brown. Et c'est un sujet intéressant, parce qu'en musique, il y a eu quelques francs-maçons, notamment Mozart, bien sûr. Et il se trouve aussi qu'on a appris le décès du musicologue Robbins London, qui avait publié chez Jean-Claude Lattès, le même éditeur que le Da Vinci Code, que celui qui, c'est lui qui a publié Dan Brown et qui publie Le symbole perdu. Donc, même éditeur pour deux choses très différentes. Robbins London avait proposé un dictionnaire Mozart qui est toujours absolument monumental, phénoménal et indispensable. Alors, Mozart franc-maçon, oui, on le sait. Par exemple, on a un document, parce que beaucoup de choses ont été détruites. Il y a des gens qui ont caviardé les lettres de Mozart pour faire croire qu'il était uniquement un bon catholique, mais non, il était aussi, ce qui n'empêche absolument pas d'ailleurs, franc-maçon, et il est entré en 1784 dans une des nombreuses loges établies à Vienne, ça s'appelait la Bienfaisance, et il y avait 29 fonctionnaires, probablement de rang assez élevé, 8 professeurs d'université, 7 ecclésiastiques, 6 artistes, 4 officiers militaires, 4 négociants et banquiers, 3 artisans, 2 médecins et 6 divers. Pas beaucoup de nobles, il faut dire que Mozart ne les aimait pas trop, il avait quelques difficultés, notamment avec l'archevêque Colloredo. Et pourquoi il serait entré là ? Ben, je pense que simplement Mozart aimait les idées de bonté, de générosité, d'entraide. Et puis surtout, il aimait avoir des amis parce qu'il avait été souvent repoussé par la haute société. Et là, le principe de la loge maçonnique, c'était quand même l'égalité de tout un chacun, évidemment, devant les mystères de la création et puis l'envie des hommes de faire bien, de faire mieux. Il a écrit des œuvres dans le style maçonnique ou avec une arrière-pensée maçonnique, comme par exemple le 22e concerto pour piano. Alors, on le sait par certains détails, notamment qu'il y a 3 bémols à la clé. Il est le chiffre 3 dans les loges maçonniques, chez les francs-maçons, c'est très important, les 3 points. Là, il y a 3 bémols, allegro du 22e concerto.